Père Paolo Garuti, vous êtes exégète et vous vivez la moitié de votre temps à Jérusalem, l'autre moitié du temps à Rome. Comment est-ce que vous vivez cette double appartenance ?
Il s'agit de deux villes saintes, même s'il y a une différence fondamentale. Rome est le centre du christianisme catholique, donc latin, tandis que Jérusalem est le centre de toute religion issue de la Bible, donc l'hébraïsme, le christianisme dans toutes ses confessions. Et donc on vit d'une façon opposée en partie sa propre foi. À Jérusalem, on est la minorité à l'intérieur d'une minorité à l'intérieur d'une minorité. Tandis qu'à Rome, on voit partout des signes du catholicisme, et donc l'expérience est complètement différente. À Rome, on a le sentiment, parfois faux, d'être la religion de la majorité, de toute façon de représenter quelque chose de très enraciné. Et c'est utile de vivre les deux dimensions, du fait que le christianisme finalement se propose à la fois comme ce qu'il faut crier sur le toit, une fois l'ayant écouté dans le secret, mais en même temps c'est le levain, ce qui se mêle avec la pâte pour que la pâte puisse devenir pain. Et pas nécessairement pour devenir nous-mêmes le pain et la nourriture. Et à Jérusalem, on peut vivre cette expérience.
Vous vivez l'expérience du levain à Jérusalem ?
Oui, du fait qu'on a des contacts avec des musulmans, avec des chrétiens d'autres confessions et des chrétiens évidemment catholiques. On a des contacts avec des juifs. Cela est particulièrement vrai quand on fait un travail qui finalement se borne à enseigner, même un texte sacré, mais à enseigner. Donc on fait de la philologie, on fait de l'archéologie. Et donc on essaye tout simplement de témoigner sa propre foi à partir de la vie, mais pas nécessairement en discutant. C'est une ville, Jérusalem, où le moins qu'on discute de religion, le mieux c'est. Puisqu'évidemment, on va toujours à toucher des points sensibles qui se mêlent à la politique, qui se mêlent au drame qu'on vit dans cette terre. Et donc, parfois, c'est vraiment pas le cas de trop insister là-dessus. C'est plutôt le cas de chercher à montrer et à partager des valeurs qui pourraient être à la fois humaines et religieuses, qui sont les mêmes et qu'on peut favoriser.
Vous êtes professeur à l'école biblique de Jérusalem et on assiste, je crois, aujourd'hui à Jérusalem à une multiplication de centres d'études spécialisés et on peut se demander où est la population chrétienne, que devient-elle ?
Il faut savoir que la bonne majorité de ces écoles, à la fois archéologiques, bibliques, philologiques, sont nées avec l'expérience coloniale, il ne faut pas l'oublier. Donc ça a été à la fin de l'époque turque que les États européens, surtout, et l'Amérique, ont envoyé des savants pour étudier la Bible là où elle avait été écrite et conçue. Eh bien, déjà à cette époque-là, toutes ces écoles se superposaient à une réalité locale qui avait toute autre tradition, plutôt liée à des origines confessionnelles. Je parle pour les chrétiens. Donc il y avait 13 églises, comme il y a toujours 13 églises, plus les nouvelles églises qui arrivent, puisque tout le monde doit être à Jérusalem d'une façon ou de l'autre. Et donc, on s'était déjà superposé à l'époque. Maintenant que les chrétiens ont la tendance à quitter le pays, on se trouve dans une situation parfois difficile, pas autant qu'école. L'école peut continuer, la clientèle est normalement de l'étranger, je parle des écoles bibliques. Mais on peut continuer, mais on voit que le tissu de la chrétienté locale est en train de se dissoudre. Et je dois vous avouer, j'étais supérieur à pendant 6 ans, du couvent Saint-Étienne, où est établie l'école biblique. Et donc, j'avais des employés palestiniens, chrétiens, puisque tous les chrétiens sont arabes, des langues. Je dois vous avouer que parfois, j'ai même conseillé de quitter le pays, du fait que la situation était tellement difficile, pas tellement pour les parents, mais surtout pour les enfants, que, ayant la possibilité, ayant les forces, ayant la capacité technique ou professionnelle, parfois j'ai dit à certains, pas à tous, qu'ils auraient bien fait de partir. Et je sais que ce n'est pas la ligne d'autres religieux, ce n'est pas la ligne parfois du diocèse. On essaye d'aider les chrétiens à rester, on essaye de les motiver en leur donnant du travail, en leur donnant des maisons et tout. C'est bien, il faut le faire, mais en même temps, il faut être très réaliste. Et surtout pour ce qui est des jeunes, s'il y a des possibilités de les aider à s'insérer dans la société d'une façon positive dans leur pays, tant mieux.
Comment se vit le témoignage entre chrétiens ? à Jérusalem?
Bon, le dialogue s'est fait d'abord dans la réalité de chaque jour, surtout à Jérusalem, où toutes les confessions sont vraiment présentes dans cette ville. Au niveau de la population, des laïcs, parfois il y a d'un côté la tradition familiale qui est très forte et donc un enracinement très conscient dans sa propre confession chrétienne, ce qui amène parfois à choisir de ne pas se marier avec des chrétiens d'autres confessions ou à se mêler aux autres, surtout s'ils sont des parallèles, puisqu'on a des églises parallèles. Il y a l'église syrienne orthodoxe et l'église syrienne catholique, on a les arméniens orthodoxes et les arméniens catholiques, les grecs orthodoxes et les grecs catholiques. Du point de vue de la base, disons, parfois on vit ce type de difficultés et parfois non, puisque finalement ils sont de la même racine. Du point de vue des hiérarchies, évidemment, il y a un dialogue quotidien, puisqu'on se côtoie, on se voit souvent, et les prêtres, les évêques ont l'habitude à se parler entre eux, mais ils savent aussi d'être, d'une quelque manière, moi je dis, la piste d'atterrissage des pèlerins, c'est-à-dire les gens qui arrivent là, de l'Italie, du Mexique, de la Grèce, les orthodoxes, de la Russie, etc. Ils s'attendent de voir une Terre Sainte qui n'est qu'à eux, et donc il faut jouer le jeu d'une certaine façon et montrer qu'effectivement, il y a une forte présence russe, grecque, italienne, catholique ou pas catholique, protestante, etc. Je me souviens d'une fois où il y avait, je ne sais pas quelle cérémonie, il y avait des patriarches, il y avait le patriarche latin, le patriarche grec. Évidemment, au moment de faire leur discours, le patriarche grec a parlé en grec, le patriarche latin a parlé en français, d'autres ont parlé leur langue, mais entre eux, ils parlaient arabe.
Il y a 9 ans, le pape Jean-Paul II venait à Jérusalem, au mur des Lamentations. Le contexte était tout à fait différent de celui d'aujourd'hui. 9 ans après, Benoît XVI, dans quelques jours, se rend en Terre Sainte, se rend à Jérusalem.
On a l'habitude de voir tout de suite les difficultés. Et les difficultés sont nombreuses. D'abord, il y a eu, il ne faut pas l'oublier, le fait que l'année sainte 2000 a été vraiment congelée au mois d'octobre par la situation politique qui est tout de suite détériorée à la fin septembre, début octobre. Donc les chrétiens qui avaient préparé, pas seulement le voyage du pape qui s'est passé en mars, mais l'année sainte, le jubilé, ce grand moment pour la chrétienté de Terre Sainte de se montrer, a été vraiment cassé. Et je crois qu'en partie, on a peur qu'un voyage du pape maintenant puisse créer une situation semblable. De l'autre côté, évidemment, se sont passées des choses récemment entre l'Église ou même le Vatican et l'État d'Israël et les Palestiniens qui pourraient d'une quelque manière constituer des difficultés. Mais évidemment, on ne vit que dans les difficultés et le problème, c'est de trouver la manière de les résoudre. Je crois qu'on peut regarder ce voyage avec beaucoup d'espoir, surtout puisqu'on le vit sachant les risques et les difficultés. Tout le monde est très conscient de ça. Mais en même temps, le climat que j'ai trouvé quand on l'a annoncé, j'étais là quand on a annoncé le voyage, le mois de mars, c'est un climat tranquille, d'espoir tranquille et en même temps de préoccupations tranquilles, je dirais. Personne ne pense qu'il y aura vraiment de drames ni de déclarations qui vont changer la réalité, même pas des églises, mais en même temps, on sait que sachant les difficultés, ce geste est très important. Donc on essaye de dépasser l'histoire plus ou moins récente pour renouer un dialogue qui a été mis en cause sévèrement. Je crois que c'est un geste de courage qui aura de suite, et je vois que pas mal de gens qui habitent là pensent à le même.
Vous vivez donc à l'école biblique de Jérusalem à Jérusalem, une partie de votre temps. Comment se vit le dialogue judéo-chrétien?
Le dialogue judéo-chrétien est d'abord un dialogue entre juifs et chrétiens. Il y a un dialogue officiel, évidemment, qui se passe surtout en Europe, à Rome ou même en Israël, mais qui est le dialogue qui, évidemment, aboutit parfois à des rencontres, parfois à des documents. Et il y a le dialogue entre juifs et chrétiens que, en Terre Sainte, évidemment, est quotidien. Ça se développe à différents niveaux. Selon les différentes spiritualités des personnes qui se trouvent engagées dans ce dialogue, je veux dire que l'hébraïsme n'a pas une autorité unique, et même les chrétiens en Terre Sainte appartiennent à différentes confessions, à différentes attitudes à l'égard du judaïsme. On a parfois affaire avec des gens qui te disent très clairement tout de suite, écoute, on va prendre un café, mais on ne parle pas religion. Ça, ce sont normalement les orthodoxes, avec qui on peut s'entendre sur beaucoup de questions, hein, puisque les juifs orthodoxes, ils ont une idée du royaume de Dieu qui est plus proche du christianisme que de certains courants du judaïsme, par exemple. Donc, on peut parler de ça, mais ce n'est pas un vrai dialogue religieux dans le sens d'arriver au fond des problèmes. Et en même temps, on a des laïcs qui pensent que la religion, ce n'est qu'une superstructure, comme on dit, ou on a des gens qui sont disponibles à dialoguer. Moi, je suis dans un terrain qui est d'abord favorable du fait qu'on fait des textes. Et comme mes collègues archéologues, je m'occupe des traces de l'Antiquité. Et alors là, on a à l'intérieur même de l'école biblique, avec nos collègues et nos étudiants qui ne viennent pas nécessairement du catholicisme ou même pas du christianisme, un oriste passif reste un oriste passif, un tesson reste un tesson. Et on part d'abord sur cela et après, la doctrine, on va en discuter quand on aura le temps.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Je rêve vraiment que ce voyage, comme beaucoup d'autres occasions de dialogue au-delà de tout ce qu'on dira. Je suppose qu'une bonne partie des articles, surtout les articles polémiques, sont déjà écrits, sont déjà dans les tiroirs des journalistes, ils vont les faire sortir au bon moment. Je crois que sera au-delà de tout une occasion d'abord de fête pour les chrétiens de Terre Sainte qui en ont besoin, et sera aussi un moment en vue d'un dialogue plus profond avec les grands monothéismes qui s'enracinent à Jérusalem. Vous voyez, Jérusalem est une ville de pierre. D'abord, elle est toute bâtie en pierre puisqu'il n'y a pas beaucoup de terre pour faire des briques. Et deuxièmement, les trois religions qui sont présentes sont accrochées à des pierres. La pierre qui est couverte par la coupole d'or du monument d'Omar, la Ham et Sharif, la pierre du Saint-Sépulcre, la pierre du mur des Lamentations. Cette dureté est aussi une surface sur laquelle la lumière peut resplendir. Ce besoin de lumière, de soleil et de chaleur, c'est la meilleure parabole pour décrire cette ville terrible et si belle qu'est Jérusalem. Au-delà des pierres, il y a des hommes, et les hommes peuvent parler entre eux et peuvent trouver une solution.